Comics est une émission présentée par Guillaume Hébrard et Landry Passa. Bon petit-déj et bonne écoute à tous. Salut à tous et bienvenue sur ce Café Comics numéro 6. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, depuis maintenant combien de temps ? 3 ans, 4 ans ?
Oui, 3 ans, 4 ans.
3
oui.
ans, 4 ans. Même plus avec les vidéos.
Même plus. Nous sommes vieux.
Landry Passa. Salut Landry.
Salut à tous les auditeurs et bienvenue dans ce Café Comics qui va être sans doute d'anthologie.
Je pense bien.
Oui.
Alors, tes vacances se sont bien passées, mon petit Landry ?
Oui. J'ai fait un petit rond en Méditerranée. C'était chouette. J'ai réalisé mon rêve. J'ai visité Pompéi et j'ai découvert que Pompéi, c'était comme Euro Disney. Fait beaucoup la queue. Mais bon, ça, c'était prévisible. Voilà. Mais sinon, excellent. Voilà. Ça explique aussi pourquoi nos cafés comics, ils ont un peu. Il arrive un peu tard, notre café.
Oui, mais bon, voilà, ça va aller. On va être dans le temps. Petit peu. Sortir ce week-end, c'est un long week-end. Non,
c'est exactement. Voilà. Profitez-en bien et on vous aide à le démarrer ce week-end.
Voilà. Moi, alors personnellement, je vais vous parler d'un petit truc qui m'arrive en ce moment. Est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'en parle en fin d'émission ? Je ne sais pas.
Oh bah, vas-y, parle-en maintenant, tu as laissé.
Je vais d'ici, alors ce sera à plein temps en septembre, mais ce sera à partir du 27 mai que je vais commencer. Tous les samedis, j'y serai. Alors en fait, je vais travailler dans une galerie d'art moderne qui va aussi vendre des planches originales de bandes dessinées. Et en même temps, avec cette activité dans cette galerie, je vais aussi m'occuper des ventes internet, donc toujours de planches originales de bandes dessinées et de bandes dessinées, de choses assez collecteurs. Donc il va y avoir beaucoup de, par exemple, de goodies autour de la bande dessinée franco-belge, pas trop de comics, pas trop de mangas, mais il va y aussi y avoir donc de la vente de bandes dessinées assez anciennes. On a des trucs des années 30, des années 40 qui sont très intéressantes. Des coupures de journaux, des trucs comme ça. La société, alors c'est pas ma société, hein, je vais travailler pour cette société-là, mais la société va s'appeler Art et Collector, donc Art au singulier, Collector au pluriel. Et voilà, ça commence le 22 mai en vrai, mais moi je commencerai le 27 mai. Voilà, donc de toute façon, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. On va avoir quelques vernissages, des dédicaces, des trucs comme ça, donc à chaque fois, je vous tiendrai au courant.
Super, wow. Un nouveau départ quoi.
Tout à fait, enfin.
C'est formidable. C'est formidable, c'est le long week-end des nouveaux départs.
C'est ça.
Formidable.
Bon, allez mon Landry, tu commences ?
Allez, je commence. Alors moi je vais commencer avec quelque chose qui n'est pas forcément un nouveau départ, mais quand même un peu, et puis qui est super chouette. Panini vient d'éditer une mini-série Spider-Man 2099 qui est sortie l'année dernière,
oui.
Qui s'appelle Spider-Man 2099 Exode. Alors oui. on va bouffer du Spider-Man 2099, puisque avec le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse ou je ne sais plus quel est le nom du nouveau là, mais en attendant, dès les bandes annonces, Spider-Man 2099 est mis en avant. Alors peut-être que nos auditeurs connaissent peut-être pas, parce que c'est vieux quand même l'univers 2099 chez Marvel.
C'est plus tout jeune maintenant.
C'est plus tout jeune.
Disons que 2099 se rapproche de plus en plus.
Voilà, voilà. Alors bon, moi je rêve d'une chose, c'est d'être en 2099 présent pour voir le comment Marvel va se démerder pour gérer ça s'ils éditent toujours des BD. Mais j'ai peu d'espoir quand même d'arriver jusqu'en 2099. Alors autant profiter de ces BD. Non, ce qui est sympa, c'est que c'est un album. C'était une mini-série de 6 épisodes. Hein. Ouais. Je dis pas de bêtises. 6 épisodes. Oui, voilà. Avec comme scénariste Steve Orlando. Ouais. Et des dessinateurs tournants à chaque épisode, hein, t'as Paul Frey, Zé Carlos, Marco Castiello, Kim Jacinto, Alexandro ouais. Miracolo et Dave Watcher. Et bon, c'est intéressant parce que, si tu veux, chaque épisode de cette série traite d'un aspect de l'univers 2099. Alors on revient pour les auditeurs. dans les années 90, Marvel, ils se sont dit, tiens, on va créer un univers, on va imaginer le Marvel des années 2099. Ouais. Avec des déclinaisons de personnages, avec la tête de pont de cet univers-là après Ravage 2099, qui était scénarisé par Stan Lee, je crois d'ailleurs, un truc comme ça.
Mes souvenirs sont bons.
La vraie tête de pont, c'est le Spider-Man 2099, ouais. qui devient un personnage ultra populaire au point que finalement, même quand la gamme de comics 2099 se casse la gueule au début des années 2000, par manque de lecteurs et par le fait que l'idée de base s'est un peu essoufflée, parce que tu reprends les persos, tu les remixes en mode 2099, ça fait pas toujours des trucs heureux, hein. Il y a qu'à voir le Hulk 2099 qui est assez ringard. bref, le principe donc de cette mini-série là actuelle, c'est chaque épisode reprend justement un pan de 2099. Donc tu as les Avengers 2099, tu as les X-Men, parce qu'il y a eu une série X-Men 2099, ainsi de suite, et ça te donne au final une histoire complète où le Spider-Man 2099 combat la Cabale, qui est une espèce de gang du crime en 2099, ouais. Qui a plein de choses. Le scénar en tant que tel, c'est assez basique. Ce qui est sympa, c'est que les dessins sont beaux et que surtout, au niveau de l'édition, Marvel a fait attention à pas faire n'importe quoi. Donc c'est assez sympa, par exemple avec les X-Men 2099, tu as des petites références à Krakoa, tu vois, enfin des comics récents. Et en même temps, je trouve que c'est une belle manière de découvrir un personnage extrêmement iconique, hein. Parce que d'abord le costume de Spider-Man 2099 est probablement un des plus réussis que Marvel ait fait, perso je trouve, avec ce bleu, ce rouge là, ouais, en liseré. Ouais, et le personnage est très très différent du Spider-Man qu'on connaît, hein.
Alors il c'est parle... ça que je voulais dire, excuse-moi.
Oui.
Il faut bien que les gens comprennent que c'est pas l'univers Marvel Terre 616 transposé en 2099.
Voilà.
C'est d'autres personnages.
Donc, c'est d'autres personnages, voilà.
C'est pas Peter Parker, c'est Miguel O'Hara.
Voilà.
Les X-Men, alors je sais plus, mais je crois qu'il y a un ou deux X-Men qui restent, il me semble.
Et c'est ça, voilà. Voilà.
Mais voilà. Je te laisse continuer.
Les Avengers constitueurs, c'est plus tardif, les Avengers de 2099. Mais t'as Moon Knight, t'as un personnage comme Moon Knight qui est toujours présent. Enfin bon, tu as des petits clins d'œil. C'est censé être le futur de 616 et en même temps, c'est un univers complètement différent.
C'est ça, c'est quand même considéré comme un univers alternatif.
Voilà, tu considères comme un univers alternatif.
Tout comme le futur A-Next. Qu'on appelait ça.
Voilà.
C'était M2, Marvel 2.
Marvel M2, ouais, voilà. Ouais, ouais. Bon, alors c'est toujours pareil. Ça, c'est Marvel et ses circonvolutions éditoriales. Il n'empêche quand même qu'il y a eu plein d'épisodes où Spider-Man 2099 rencontre le Spider-Man iconique classique. D'ailleurs, c'est pour ça que les films de Spider-Verse. Finalement, mettre en avant ces personnages-là et les mélanges, les remixes et en font plein de choses. Et c'est le premier, en tout cas, a été un gros succès. Hein, ouais. Faut bien le dire. Et à la fois un succès critique et un succès, voilà. Là, on attend de voir. Mais c'est vrai que les bandes annonces ont beaucoup mis en avant Spider-Man 2099. Donc, et... Marvel, pas idiot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils publient du Spider-Man.
Bien sûr. Ça a mis en avant Spider-Man 2099. Là où j'ai été étonné et où j'ai été un peu dégoûté aussi, c'est que tu comprends plus ou moins que le méchant, ça va être Ben Reilly, en fait.
Voilà, ouais. Bon, ben ça...
On m'a un petit peu saoulé, parce que ça surfe sur la vague où Ben Reilly, en ce moment, c'est un méchant, et vous savez que je déteste ça. Mais, bon.
Bah, c'est-à-dire l'univers étendu de Spider-Man, parce que moi, je considère que ce soit les Ben Reilly, les Spider-Man 2099, et plein de séries, c'est un peu de l'univers étendu de ce qu'est l'ADN de Spider-Man même.
Maintenant, oui, grâce au phénomène... Spider-Verse, en fait. Tu considères plus 2099. Ben Reilly, ça a toujours été Terre 616. Mais, voilà. Mais Spider-Man 2099, il a fait tellement de voyages sur la Terre 616 que tu le considères plus vraiment comme un univers alternatif, en fait.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est une fort belle manière de pour 16 ou 17 balles de découvrir un petit peu le personnage. Ça respecte bien l'esprit des premières séries qui d'ailleurs vont être rééditées, je crois. Panini veut faire un gros omnibus, une grosse intégrale des, ben oui, des Spider-Man 2099.
Ils forcément. Sont pas bêtes,
hein. Forcément, hein, forcément. Il faut vendre, hein. Voilà. Bon, et c'est le moment de vendre du Spider-Man 2099. Bah oui, oui, oui. Mais l'idée de ces futurs comme ça est toujours sympathique parce que au-delà de l'exercice de style, on va dire, où t'as des scénaristes qui essayent de faire des choses un peu des variations, ceux qui ont résisté au temps, et 2099 quelque part a résisté au temps malgré parfois disons plusieurs diverses fortunes ou infortunes éditoriales, hein, c'est parce que quelque part c'est éminemment sympathique, et puis que ce Miguel O'Hara, c'est pas Peter Parker, c'est pas un simple décalque. Voilà.
Non.
C'est un vrai personnage et c'est une vraie incarnation de Spider-Man.
C'est un personnage mature, hein, il est adulte. Hein,
voilà. Ouais.
Voilà. Et les gens, bien sûr, vont dire ouais, années 90, gna. Mais faut quand même dire que c'est scénarisé. Je te parle de la première série Spider-Man 1999. Oui. Hein. Pas Exodus, mais. C'est scénarisé par Peter David.
Ouais.
Déjà, Exodus, je sais plus.
Enfin, tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je te l'ai dit sur Orlando. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Steve Orlando.
Ouais, Steve Orlando, bon. Voilà. Et donc par Peter David, et c'est surtout aussi dessiné par Rick Leonardi.
Rick Leonardi.
qui est un peu, tu sais, on avait fait une émission sur Lee Wicks. On parlait souvent. Voilà.
C'est ça, ouais.
Rick Leonardi, c'est à peu près la même génération que Lee Wicks. C'est le même acabit, en fait. Rick Leonardi, c'est du sueur. C'est un mec, quand t'en as besoin, on l'appelle, il est là. C'est hyper efficace, c'est très beau ce que fait Rick Leonardi. Moi, j'aime
beaucoup.
C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on le voit plus, Rick Leonardi. Enfin, moi, j'ai plus de... Il est mort.
Je pense que c'est des dessinateurs qui n'ont pas atteint le niveau de popularité, ouais, pour devenir vraiment hyper bankable. Effectivement, c'est des gars sûrs. C'est vrai que le premier Spider-Man 2099, je crois qu'il en a, il a quasiment illustré tout le run de Peter David. Il y a très peu d'épisodes où il n'était pas, où il répondait pas présent. C'est des dessinateurs de l'ombre, et pourtant, si vous êtes un amateur de comics depuis quelques décennies, vous l'avez forcément rencontré, quoi. C'est ça, comme Lee Wicks. Vous avez forcément lu des trucs de lui.
Je suis en train de vite fait regarder le Wikipédia de Rick Leonardi. En fait, en lien, tu tombes sur Michael Golden, John Romita Jr. et Lee Wicks. Donc voilà, ça explique un peu la génération et puis la carrière du gars, parce qu'il a, lui aussi, c'est un mec qui a une carrière énorme avec Leonardi. Mm-hmm. Tu vois, oui, c'est vrai, il a, oui, putain, en plus j'ai des épisodes de lui de Batman Beyond, tu vois.
Ouais.
Mais moi j'adore ces types-là, comme Lee Wicks, parce que c'est des types qui ont des carrières énormes mais restent discrets, en tout cas en Europe. Parce que j'imagine qu'aux États-Unis, quand on va voir Rick Leonardi, tu peux plus le voir en convention. Mais ils ont des carrières énormes et ils sont discrets, et puis les mecs, t'as besoin d'eux, tu les appelles, ils sont là, ils dessinent, et puis voilà, ils font leur boulot, ils prennent leur chèque et ils se cassent, quoi.
Ouais, disons. Donc, que c'est ça, c'est le dessinateur qui, quand Rick Leonardi dessine une BD, c'est quand même le héros, le personnage qui dessine, qui est en vedette, c'est pas l'auteur.
Mais les gens savent que c'est Rick Leonardi, donc il y a déjà un gage de qualité. C'est comme quand tu prends du Lee Wicks, quoi, tu vois.
Exactement.
Moi, un truc que sort Lee Wicks, je prends direct.
Donc, ça devient de plus en plus rare, hein, quand même.
Ouais, alors il me semble qu'il fait quelques covers là, Lee Wicks, mais les gars, tu vois, Rick Leonardi, je regarde, il a 65 ans, enfin, ils sont plus. Ce sont plus de jeunes auteurs, ces gens.
C'est ça. Non, mais c'est des gens qui ont fait une grande partie de leur carrière entre les années 70, 80 et 90. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, quand je cite donc Exodus, cette mini-série, tu dans les noms, que ce soit Zoé Carlo, que ce soit Marco Castiello, je dis pas que ce sont pas des inconnus, mais c'est la nouvelle génération, de dessinateurs. C'est des gens qui probablement dans 20-30 ans, il y aura des gars derrière leur micro qui diront « Ouais, c'est super, c'était des gars sûrs. »
Alors, tu vois, moi, j'ai l'impression quand même que les dessinateurs vont avoir des carrières plus courtes en tant que dessinateurs de comics, en fait. Je sais pas si tu vois, il y a certains dessinateurs, il y a quelques années, on disait « Waouh, machin, ils vont tout péter et tout », et en fait, t'en plus parlé, quoi. Alors pourquoi ? Ben parce qu'ils se font engager par des sociétés de jeux vidéo ou des machins, où il y a peut-être un travail plus régulier, où c'est peut-être mieux payé, tu vois. Après, je dis ça, je sais pas quel salaire ils touchent, hein, ces gens-là. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'oriente. Tu vois, il y a quelques années, il y avait un dessinateur, je me rappelle plus de son nom là, où on disait ouais, ça va être voilà. Et en fait, ben t'en entends plus trop parler, ou tu le vois faire une ou deux petites séries par-ci par-là. J'ai l'impression qu'on a quand même, mis à part des exceptions, on va de moins en moins avoir droit à des pseudo-légendes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, c'est-à-dire... je crois que ça tient au fait que, quelque part, la bande dessinée américaine... Bon, je vais me faire gronder par notre invité du précédent épisode, mais elle devient moins centrale, on a l'impression, dans le parcours des personnages. Et donc du coup, le dessinateur de comics ou autre, même le scénariste, hein, on a un peu la même chose pour les scénaristes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus alors qu'il y a quelques années, t'achetais des fois en disant "Oh oui, c'est une histoire d'un tel et un tel", maintenant il y a quelques stars, mais globalement, tu as l'impression aussi d'avoir beaucoup de faiseurs qui passent d'une série à une autre, ou bon, sans marquer d'une trace indélébile les séries, tu vois, par exemple.
Après, il y a une plus grosse représentation, enfin, quand je dis plus grosse, c'est une multiple représentation des comics pseudo-indé, si tu veux.
Oui, voilà.
C'est vrai que il y a certains dessinateurs qui vont aller plus vers l'indé, parce qu'ils touchent des droits d'auteur dessus, et puis que si ça marche, c'est jackpot, quoi.
Ouais.
Donc je pense à Awa Studio, par exemple, aux États-Unis, là, c'est, je sais pas si tu connais, mais donc ils font des, alors je sais plus si c'est Awa Studio ou Awa Comics, enfin ouais, ça doit être Awa Comics, pardon. Alors je ne me rappelle plus du nom du comic book, mais je vais le prendre. Il y a un truc avec Mike Deodato Jr., par exemple, tu vois.
Ouais, d'accord.
Deodato,
ouais.
Putain, c'est une putain de légende, le gars. Hein, donc.
Oui, bien sûr. Après, je crois aussi qu'il y a une forme de financement pour les ND.
Bien sûr.
Je veux dire, tout ce qui est le financement participatif. Bon, je crois que ça aide, ça permet aux ND d'être rentables, ou en tout cas de dire voilà, si on en sort, 4 000, on en a vendu 4 000, si ton financement a réussi. Donc il y a de l'argent qui rentre en direct quasiment. Et bon voilà, est-ce que ça a une influence sur les dessinateurs, on va dire des grosses machines de guerre que peuvent être Marvel ou DC Comics? C'est compliqué à savoir. Moi j'ai quand même une impression que suivant ce que l'éditeur, comment l'éditeur croit en son catalogue, les dessinateurs ou les scénaristes font véritablement des choses extraordinaires, ou alors au contraire sont des feux de paille. Je veux pas avoir l'air de critiquer les fans de DC qui pourraient peut-être nous écouter. J'ai quand même l'impression que DC aujourd'hui c'est un portefeuille de licences où au fond tu aimes Spider-Man, tu aimes Superman, par contre on va te le vendre sur des boîtes de céréales, on s'en fout de la bande dessinée. L'essentiel, c'est qui rapporte par boîte de céréales, ils rapportent tant d'argent, même si c'est que 10 cents, mais ils s'en vendent tellement que voilà. Enfin, je veux dire, ils n'y croient plus. C'est depuis que Warner a vendu à Discovery ou que. Je pense que les dessinateurs, enfin, moi, je trouve honnêtement que ce que fait DC actuellement en termes de création pure graphique, on enlève même les histoires à la limite, parce que bon, c'est vrai que c'est toujours très compliqué, hein, les super-héros, on en a tellement fait que voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des fois un peu dur de se renouveler. Bon, mais je trouve que bon, si tu veux, une chose est certaine, avant la vente de à Discovery, tu avais quelques grosses vedettes qui avaient été rattrapées chez Marvel, hein, on pense notamment à Romita Junior, mais même au niveau des scénarios, t'avais Bendis qui était quand même une grosse prise. Et puis finalement, qui n'a pas fait grand-chose. Moi, je pariais, parce qu'ils ont fait quand même, il n'a pas fait grand-chose. Mais le problème surtout, c'est que très rapidement, quand il y a eu la vente, quand il y a des ventes dans ces cas-là, on commence à regarder les contrats. Dit, attends, mais tu le payes bien cher, lui, pour ce qu'il fait. Ouais. Ou tu... Et hop, là, tu dégages. Et tu fais venir quoi? Tu fais venir des faiseurs en disant, de toute manière, les gens ne viennent pas lire la BD de Romita Junior, c'est faux, ouais, les gens viennent lire la BD de Romita Junior, c'est pas à Guillaume que je vais apprendre ça. mais ils viennent lire une BD de Superman ou de Batman.
Ouais.
C'est l'argument pour faire baisser le prix des contrats, pour faire baisser le prix des trucs. Donc, bon, alors du coup, ça donne parfois des dessinateurs un peu moins inspirés ou au talent un peu moins affirmé. Bon. Marvel, bah, je dis pas qu'ils suivent pas la même tendance, mais bon, c'est vrai qu'actuellement c'est pas aussi iconique, quoi, on va dire.
Mais c'est, ça passera. Je trouve que depuis, si j'étais vraiment dur, je dirais Civil War. Mais ouais. Allez, on va dire depuis 10-13 ans, depuis 2010, on va dire. Ça a du mal là, Marvel, hein, quand même. Enfin, y a quelques trucs qui m'ont pas forcément emballé, mais où j'étais agréablement surpris. Et je pensais pas être surpris. Je pense à King in Black, tu vois, la saga King in Black, que je me disais ça va être un navet de l'espace. Et en fait, non, j'ai trouvé ça super bien. Mais Heroes Reborn, j'ai trouvé ça pas.
Ouais. Bon, moi, j'ai des trucs. Hein. Je peux te dire, il y a quelques petites choses. Hein. Tu prends les Avengers scénarisés par Jason Aaron.
Oui. Et en fait, je suis complètement passé à côté.
Et ben oui, voilà. Mais c'est l'idée, si tu veux. Enfin, la grande force pour un lecteur, c'est que Jason Aaron, il a inventé les Avengers d'il y a un million d'années, quoi. Tu vois, avec Odin, avec. Bon, voilà. Ça, c'était une idée brillante. Est-ce qu'il en a fait quelque chose d'absolument brillant? Je sais pas trop. Tu as
il a sans doute marqué les. Alors peut-être pas qui nous a marqué nous. Enfin moi en tout cas je sais pas, j'ai pas lu. Mais il a peut-être marqué les jeunes générations, les gamins que nous on était il y a 20 ans quand on avait 20 ans et qu'on lisait des comics.
Si on s'en réfère aux ventes, ça n'a pas l'air d'avoir été très, très dégueu. Il y a eu des petits concepts foutraques qui étaient drôles, comme les Savage Avengers.
Ah, moi,
avec Conan. Pris, hein.
Non, mais je l'ai pris, mais pas que pour Conan. Oui. En fait, c'est l'Expendables, en fait. C'est l'agence touriste, tu vois.
C'est ça, voilà. Il y a des petites pépites. Ce dont j'ai commencé notre émission, là, notre café, Spider-Man, cette mini-série Spider-Man 2099, objectivement, elle est sympa. Elle titille le nostalgique que nous sommes. Et en même temps, je pense qu'elle a dû attraper quelques jeunes gens qu'on pouvait être à l'époque, qui ont fait, waouh, ouais, c'est super et tout, et j'attends le film ou je veux. Ouais. Bon, donc, voilà. Après, il y a un autre problème chez Marvel, c'est que malheureusement, ils réfléchissent plus en gamme parfois que DC. Donc honnêtement, ils ont mis beaucoup, 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 beaucoup d'efforts dans les X-Men version Krakoa depuis Oxbox. Alors, on peut ne pas tout aimer là-dedans. Moi, j'avoue qu'il y a quasiment plus que ça que je suis chez eux en actu. Voilà, parce que clairement, c'est là où il y a... Après, on n'aime pas l'histoire. Il y a un vrai souci d'écriture. Les dessinateurs, ils sont assez réguliers. Donc, tu bouffes pas trois épisodes d'une superstar quelconque. Et puis après, des fillers. Ouais. À plus qu'à savoir quoi en faire avec d'illustres inconnus. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'au fond, ils ont c'est un peu l'effet coupable de Marvel depuis les années 70. C'est que régulièrement, ils mettent de la cam et ils mettent de la qualité dans leur gamme X-Men parce qu'ils y croient à fond et que c'est leur... C'est leur entrée d'argent, c'est leur star principale. Et bah, il a Spider-Man un peu en jachère, les Avengers, c'est ronronnant.
Voilà. Alors, apparemment, j'ai pas lu les derniers Spider-Man là, mais je les ai, hein, mais c'était en fait, j'ai tellement été matraqué, tu vois, par la saga Dark Web là. Ouais. En fait, je me suis arrêté de lire Spider-Man à Dark Web et j'arrive pas à rouvrir le truc. Mais pour te dire, comme ça m'a. Tu vois, pourtant, il y a du Romita Junior et tout. Mais il paraît que là, ça se réveille parce que, je sais pas si t'es au courant, je sais pas si ça a commencé en France d'ailleurs, le nouvel Amazing Spider-Man. Mais en fait, apparemment, Peter, il y a un an, il a fait un truc énorme.
C'est ça, ouais.
Et voilà. Et moi, ce qui me saoulait, c'est que donc deux numéros par mois. Donc 24 numéros, sans savoir ce qu'il a fait il y a un an. Et ça te laisse en suspens, ça te laisse en suspens, machin et tout. Et là, enfin, apparemment, tu sais ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Mm-hmm. Au bout de 24 numéros, quand même.
Oui, moi, je suis au début, voilà. Au début de ça, hein, par les publications françaises.
Mais de toute façon, je ne vais rien te spoiler. Il n'y a rien à te spoiler.
Oui. Non, mais moi, je suis très dubitatif quand même avec ça sur un point. Quel que soit ce qui peut se passer au bout de 24 épisodes, c'est est-ce que tu avais vraiment besoin de prendre Peter Parker, qui est quand même le personnage le plus loser qui soit de l'univers, hein? Bon, ouais. Il arrive toujours plein de choses. Tante May, il a fait 54 au moins que crise cardiaque en 50 ans ou en 60 ans. Donc, c'est vraiment un loser. La vie de Peter Parker est déjà assez triste comme ça. C'est ça d'ailleurs qui fait que ça fait que c'est un grand héros. Parce qu'au fond, je veux dire, c'est pas un journaliste multiprimé qui a l'air de pas trop galérer dans sa vie parce qu'il a la technologie de Krypton dans son frigo. Ouais. Ou comme ça, c'est vraiment un mec qui en chie humainement. Et qui se retrouve toujours à endosser son costume pour sauver les autres, quoi. Ouais. Parfois, en sacrifiant une partie de sa propre existence parce qu'il pourrait être plus heureux, quoi. Voilà. Ouais. Bon, je veux dire, t'as des épisodes dès les années 60. Je crois que c'est Amazing Spider-Man 50, enfin bon, truc comme ça. Il jette son costume et pendant une journée ou deux, il vit comme un mec normal. Il est super heureux, mais le monde entier, enfin New York entier plutôt, se met à déconner, quoi. Parce qu'il est plus là. Donc c'est un côté un peu le personnage. C'est ça la tragédie de Peter Parker. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire le mec qui est encore plus déprimé de chez déprimé, dans la trajectoire du personnage, est-ce que c'était vraiment utile?
Mais c'est là où moi j'aimais l'époque. Alors attends, c'était Straczynski. C'était Straczynski qui avait fait de lui un prof, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. En 2006.
L'époque prof où il disait putain, à un moment donné, le mec est hyper intelligent. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout en tant... enfin, moi j'ai jamais compris. Pourquoi adulte, il continue à être reporter, le gars, quoi.
Oui, oui.
Tu vois,
oui.
Et parce que Spider-Man, c'est un des seuls, héros que l'on connaisse, même si on sait que tous les héros ont soi-disant des boulots, qui a vraiment un boulot, quoi. Tu vois,
qui a des galères d'argent.
Le mec, New York, c'est pas donné. Mais voilà, et puis c'est comme Dan Slott, on l'a souvent critiqué aussi, mais Dan Slott, il a eu une idée à dire, mais le mec, attends, il a créé une... Il se créait des costumes tout seul, il se créait des toiles tout seul, des trucs hyper résistants et tout, mais pourquoi ce serait pas un putain de scientifique à la Tony Stark, tu vois?
Ouais.
Ben oui, oui, putain, ben oui, tu vois, oui. Même s'il a un peu mal géré, ça s'est mal passé, bref.
Oui, non, mais ça fait partie des trucs. Donc c'est vrai que je suis toujours très dubitatif quand on veut rajouter une couche d'emmerde à un personnage qui a globalement pas été gâté. Ouais, voilà, il y a Daredevil, et encore Daredevil. Bon, c'est finalement un personnage qui est très différent. Ses super pouvoirs, ils le font souffrir d'une certaine façon. Et du coup, ça doit pas humainement te rendre très bien quand quelque part le moindre truc que t'effleures, presque ça te coupe, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un hypersensible.
Est-ce que tu crois que c'est pour ça qu'il baisse tout ce qui bouge?
Peut-être aussi, parce que c'est un hypersensible. Et le problème, c'est que bon, quand même, dans les années 80, t'as eu droit à des sagas où les petites amies, elles se pendaient.
On en avait parlé au dernier.
À l'avant-dernier, c'est waouh. Enfin, tu lisais ça même à l'époque. On était petits.
Oui, c'était chaud. Il y avait des scènes avec, enfin, l'époque No Senti et tout ça. T'étais là, tu disais what the fuck, c'est une toxico, ça m'a fait tout.
Il y avait des choses qui étaient assez. Mais même Miller, anecdote Miller, j'ai vu sur des nombreuses pages. Attention, c'est une private joke, auditeur, mais elle est sympa quand même. J'ai vu sur des nombreuses pages qu'on suivait des fois ou qu'on suit. Des fois, tu pars, tu reviens. Un mec a quand même expliqué. Il dit j'ai lu Dark Knight Return. Ouais, bah, j'ai lu parce qu'il fallait lire, mais franchement, le dessin, c'est pas terrible. Et puis l'histoire, c'est pas terrible. Et puis hey mec, écoute, c'est quoi, si t'aimes pas de Dark Knight Return, on peut plus rien pour toi, gars. Bon, voilà. Je sais pas si tu nous écoutes. Hein.
C'était une des pages où ils prennent en photo leur collection, là.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais, quand ils font pas ça, ils te disent, ouais, quand même, j'ai lu un truc, là. Bon, j'ai lu parce qu'on m'a dit qu'il fallait le lire, mais franchement, c'est nul. Hein.
Ouais, c'est nul.
Dark Knight Return, c'est nul. Ouais. bien sûr. Bon, bref. Bon, voilà.
On a un peu dépassé. Je vais passer mon tour pour ce soir. Enfin, pour ce jour. Non, si, allez, je vais en faire une rapide. On va parler cinéma.
Jamais aussi long que Xavier.
On va parler cinéma. On a de la marge. On va parler cinéma. Je suis allé voir. Non pas les Gardiens de la Galaxie parce que j'ai pas eu le temps encore, il est sorti ouais. Il y a deux jours, alors vous nous écoutez, mais je suis allé voir Donjons et Dragons, dis donc.
Oui, j'en ai entendu parler.
Et alors je m'attendais à un truc
oui
parce que j'ai un vague souvenir des deux, enfin moi j'en ai vu que deux sur trois, mais des deux films Donjons et Dragons qui sont passés là, je sais plus quand c'était, début des années 2000 ou fin 90, je sais plus là.
Ouais, c'est les films RTL 9 ça.
Ouais, qui étaient des daubes immenses, enfin, pff, c'est hallucinant quoi. Mais c'est genre RTL 9, tu sais, entre la deuxième partie de soirée et le film érotique.
Ouais, bah, oui,
c'est
oui,
vraiment les bas-fonds du truc quoi.
C'est bien ce que j'ai dit, c'est RTL 9 quoi.
Et en fait, c'est excellent. Moi, je me suis régalé. Et putain, le film, il a une audace en te mettant certes des effets numériques, mais en t'en mettant le moins possible. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a des décors naturels. Tu le sens. Il y a carrément des constructions studio de villages, chose que maintenant tu vois plus quoi. Et il y a carrément des masques et des créatures qui sont faits avec du latex, des plumes, enfin des trucs. Même si c'est pas forcément très réaliste, en fait. De toute façon, Donjons et Dragons n'est pas réaliste. Enfin, pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, voilà, on oscille entre le fantasy comique et la dark fantasy, tu vois, c'est
la fête à la saucisse de tous les poncifs du genre.
C'est pas Warhammer, mais c'est quand même mais et il y a des trucs, mais tu te dis ben voilà, ça enfin tu peux le toucher ça, tu vois. Et même après j'ai posé la question à mon plus grand, il était avec nous, et même le plus petit, ils m'ont dit mais c'est vrai papa. Tu as raison. Alors ça m'a tué. Pour une fois qu'on me le dit, c'est vrai que même si c'est, alors avec leurs mots, hein, même si c'est moins bien fait que le numérique, eh ben en fait, on se sent mieux en le regardant. Tu vois?
Oui, oui. Alors moi j'ai une expérience avec ce dernier film, ce Donjons et Dragons. Là, je ne l'ai pas vu, mais je suis tombé plusieurs fois au cinéma sur des bandes annonces de ce film, des bandes annonces qui avaient tendance à avoir un peu honte d'être des bandes annonces pour Donjons et Dragons. Ouais. C'est-à-dire que bon, en gros, on n'y croit pas trop au film en lui-même. Ouais, hein, on l'a fait, on le diffuse.
Gardien de la Galaxie, quoi.
Voilà. Mais effectivement, dans ces bandes annonces, tu touches du doigt, je pense, quelque part. Enfin, moi, c'est ce à quoi j'ai pensé. Tu sens que le film, il était généreux, tu vois.
Oui.
Voilà. Ah, oui, sens que le film est généreux et que c'est pas simplement un film qui essaye de cloner un petit peu de l'heroic fantasy ou essayer de gratouiller un petit peu le Seigneur des Anneaux parce que bon ils en ont pas les moyens.
Qu'il a coûté cher le film, hein, Donjons et Dragons. J'avais vu un peu les trucs, mais il a coûté assez cher quand même.
Bah, à partir du moment où il n'y a pas de la CGI, tu es sûr que ça coûte cher un peu, parce qu'il y a des maquillards, il y a des décors qui sont faits en réel et qui sont pas des fonds bleus ou des fonds verts. C'est ça forcément, hein. Bon, mais non, en tout cas il a l'air toi, attends, je ne l'ai pas vu, je le verrai peut-être un jour si sur une plateforme de VOD, mais je trouve que voilà, c'est très bien que ces films-là existent encore en 2023 et qu'on ne soit pas condamné quand on va voir du grand spectacle uniquement à une marvellerie. Alors, je ne les critique pas, je les adore, je suis quasiment tous allés les voir. Hein. Oh. Mais bon, on est bien conscient que si le cinéma se résumait qu'à ça, pauvre humanité. Et non, mais c'est vrai, c'est pas. Voilà. Je n'ose pas parler des films d'ici, hein, même si, honnêtement. La seule chose que je vais sauver dans l'univers d'ici, c'est la série Peacemaker. Mais bon, c'est la seule chose que je sauve. Mais là, au moins, il n'y a pas trop de moyens, mais c'est cool. Bref, en tout cas, une chose est certaine, c'est vrai que heureusement que le cinéma ne se résume pas qu'à ça. Et de temps en temps, tu as des films comme ça qui sortent et qui sont grands spectacles, qui sont populaires, parce qu'il a quand même eu son petit succès, et qui sont une autre proposition que toujours, les acteurs ne savent pas ce qu'ils font, ils sont sur un fond bleu.
Mais tu sais, en fait, j'ai eu l'impression, alors déjà oui, mais de revenir un peu à l'époque Willow, Alors, je vais pas dire que c'est aussi bien que Willow, machin.
Oui.
Enfin, les gars, re-regardez Willow maintenant, vous verrez, vous allez en revenir vite quand même. Ouais. Mais j'ai eu cet esprit-là, tu sais, l'esprit Goonies, l'esprit Willow, tu sais, l'esprit un peu en blanc, là, tu vois. Enfin, et Chris Pine, il est excellent. Ouais. Mais vraiment excellent. Michel Rodriguez fait de la Michel Rodriguez.
Bah oui.
Il casse la gueule au mec. Voilà. Voilà. Et elle est excellente dans ce qu'elle fait.
C'est ce qu'on lui demande.
Voilà. Et par contre, alors, je ne connais pas aussi bien le monde de Donjons et Dragons que notre cher collègue Nicolas, qui lui est un joueur depuis peut-être 30 ans maintenant. Mais j'ai quand même des bases. J'ai eu l'impression, le jour où il le verra, peut-être qu'on en parlera, mais j'ai pas eu l'impression, je sais qu'en fait, il y a des clins d'œil, mais genre. C'est pas des clins d'œil en fait, tu peux pas appeler ça des clins d'œil, mais il y a des trucs qui viennent du lore Donjons et Dragons, mais toutes les 10 minutes il y a des trucs quoi. Enfin, tu vois, vraiment, ils ont inséré plein de trucs connus en fait, qui ne vont pas parler aux gens qui connaissent pas, mais c'est pas grave, ça sert l'histoire. Tu vois, c'est pas des trucs posés là au milieu. En fait, non, ça sert l'histoire. Donc,
c'est ça, il y a des scénaristes qui ont fait leur travail.
À un moment donné, ils parlent de la porte de Baldur, donc Baldur's Gate, hein, comme, enfin, tu vois, voilà, il y a plein de trucs, tu dis, bon, ok, les mecs, ils ont pensé à ça, voilà, exactement, ils ont fait leur job, en fait.
Ils ont fait leur job, ce qui est pas toujours le cas. Hein, t'as des films où bon les mecs ils te posent des voilà il y a un contre-exemple hein, j'ai honte parce que je suis allé le voir Shazam j'ai honte hein, bon, voilà je me sens sale d'ailleurs rien que de le dire voilà chers auditeurs
je me sens sale
mais honnêtement il faut être clair hein, c'est du tu sens que bon les gars ils essayent de singer une formule qui marche chez les voisins qui te sortent des vannes qui sont pas drôles ou à peine bon voilà ouais. Et puis c'est même pas respectueux pour ce qu'est le personnage de BD d'ailleurs tu ne le reconnais pas. Shazam, c'est pas qu'un Superman avec des pouvoirs magiques.
Et oui, mais c'est ça le truc qu'ils ont pas compris en fait.
Voilà. Ouais. Et que les Gardiens de la Galaxie, bon bah c'est James Gunn. Je sais pas ce qu'il en est du 3 puisqu'effectivement je ne l'ai pas vu, mais c'est l'écriture d'un cinéaste qu'on n'aime pas, mais qui connaît ses forces, ses faiblesses, qui veut mettre des playlists musicales dedans.
Bien sûr.
Plus ou moins pertinente, mais après ça, c'est encore un autre débat. Il faut pas essayer de faire pareil pour. Il faut essayer de faire autre chose. Le super-héros, c'est pas que du film à vannes, quoi.
Ah, non, c'est non.
Voilà.
Alors dans Donjons et Dragons, l'humour est présent, mais c'est pas Thor Ragnarok, quoi. Thor Love and Thunder, tu vois.
Oui, voilà. On fait pas des épées avec le bras, quoi. Tu vois.
Et franchement, quand ils se mettent à rigoler, c'est quand même assez rigolo, quoi. Il y a une scène complètement tarée vers la fin, là, où Chris Pine fait diversion, et c'est... Putain, les mecs, ils ont pas eu peur de... Enfin, tu vois, en même temps, bon, c'est un peu les effets... En fait, voilà, les connaisseurs verront, voilà. Mais il y a ces effets-là dans le jeu aussi, donc... C'est assez marrant, quoi. Mais... non, c'est vraiment le
film à aller voir.
Le film est super cool. Ouais, franchement.
Bon. Si pour un long week-end.
Ouais.
Pour un long week-end, c'est une bonne reco.
Moi, j'ai entendu qu'il se. Alors, c'est pas qu'il marche pas en salle. C'est qu'il a coûté très cher. Et ils rentrent dans leurs frais, mais c'est pas forcément. Voilà.
Ouais.
Donc, une suite. Alors, ce qui est bien avec Donjons et Dragons, par contre, c'est que tu vois, tu peux avoir des suites sans forcément avoir la suite avec les mêmes personnages.
C'est ça.
L'univers est tellement vaste. Là, il parle déjà de faire une série ou un film, je ne sais plus, Amazon sur Drizzt. Donc, ouais. Drizzt, c'est un elfe noir. C'est sans doute un des héros les plus connus de Donjons et Dragons.
Ouais.
Donc, il y a plein d'histoires à des époques différentes. De toute façon, les époques, on s'en fout un peu parce que le temps est arrêté dans Donjons et Dragons. Mais voilà, il y a tout ce truc. Et ce qui est bien dans le film aussi, c'est que par exemple, ils vont te parler d'une scène, tu vois, un objet à trouver ou je sais pas quoi, mais ils vont te dire il y a eu une guerre à ce moment-là, donc on va réveiller des mecs, tu vois. Enfin, voilà. En même temps, ils te placent pas forcément un passé, tu vois, défini. Ouais. Ils te disent qu'il s'est passé plein de trucs, en fait. Et ça, c'est important que les gens sachent que, ouais, d'accord, c'est un monde construit, il peut se passer plein de trucs, en fait. C'est pas qu'un truc avec trois héros à la con qui se courent après.
Voilà. toute proportion gardée, c'est un peu comme Star Trek. En quelque sorte, voilà.
En quelque sorte.
Et ce sera notre, et ça peut être une bonne conclusion, hein, pour une, pour une fin de déjeuner.
Tout à fait. Écoutez. Bon, eh ben merci. Ouais. On va se quitter avec, qu'est-ce que j'ai dit, avec Fleetwood Mac et la chanson Dreams. Ben je vous dis à bientôt dans 15 jours. Et puis,
allez.
Voilà. À plus, André.
À plus.
Ciao.